qui est cadre supérieur de santé, cadre de pôle, et qui a, entre autres, la responsabilité de l'UHSA. À ma gauche immédiate, Isabelle Mouric, qui est praticien hospitalier à l'UHSA et aussi au SMPR de Metz. Et à ma droite, Francis Mangeant-Jean, coordonnateur général des soins au centre psychothérapique de Nancy. Alors, le sujet sur lequel on a été invité à réfléchir, c'est donc les UHSA entre cahier des charges sécuritaires et innovation thérapeutique. La commande, telle qu'on l'a comprise, c'est est-ce que finalement on peut faire de l'innovation thérapeutique avec un cahier des charges qui s'impose à nous, sécurisant et contraignant. Et, entre autres, est-ce que l'architecture, finalement, peut faire en quelque sorte le joint pour finalement concilier l'inconciliable entre l'innovation et un cahier des charges sécurisant. Alors, je ne vais pas présenter le centre psychothérapique de Nancy, qui a plus de 400 ans d'histoire et où on retrouve à peu près l'addition de tous les modèles architecturaux qui nous ont été présentés en première présentation ce matin. Alors, simplement, quelques mots sur le UHSA. Alors, comme chacun le sait, la création des UHSA résulte de la loi Perben du 9 septembre 2002 relative à l'orientation et à la programmation de la justice, avec donc création d'unités hospitalières spécialement aménagées pour hospitaliser les personnes qui se trouvent en situation privative de liberté et dont l'état de santé nécessite une hospitalisation à temps plein. Ces UHSA sont implantés au sein d'établissements de santé, donc avec un bâtiment central pour l'organisation des soins et une garde périphérique autour pour assurer toute la sécurité et la protection des patients. Alors que jusqu'à présent, toute personne se trouvant en situation privative de liberté, dès lors que son état de santé nécessitait une hospitalisation, elle était hospitalisée d'office. En application de l'article D398 du Code de procédure pénale, elle est hospitalisée dans un service de psychiatrie classique et le plus souvent, le patient passait son temps en chambre d'isolement. Alors, avant de laisser la parole aux membres de l'équipe qui m'entoure, déjà premier point, ces contraintes sécuritaires qui sont très fortes, hein, si on peut peut-être passer la première diapo. Donc on voit bien, hein, les façades en limite de périmètre sont infranchissables et respectent les exigences de sûreté. Évasion, intrusion, vandalisme, impossibilité de communiquer à l'extérieur par des moyens visuels, sonores ou trafic. Prévenir toute tentative de suicide, d'évasion des personnes détenues et hospitalisées. Protéger les personnes détenues d'une éventuelle agression extérieure. Prévenir toute entrée en force dans l'unité de l'extérieur et l'introduction de tout produit ou objet prohibé. Et c'est l'ensemble du cahier des charges qui reste sur cette tonalité. Alors, comment on a pu intégrer ces contraintes ? Alors, moi, je vais simplement vous donner quelques idées clés que j'ai retenues. Alors, d'abord, ces contraintes sécuritaires, finalement, plutôt que pour les équipes soignantes, on passe sous les fourches collines et que ce soit des contraintes supplémentaires, on va vous montrer qu'on en a plutôt fait une opportunité grâce à une organisation des soins rigoureuse. Deuxième point, l'élaboration d'un projet médical précis, structuré, élaboré par des acteurs qui possédaient déjà une expérience en milieu pénitentiaire. Un projet co-construit, je dirais, par les deux institutions, à la fois l'administration pénitentiaire et les équipes pluriprofessionnelles, chacun prenant en compte les contraintes de l'autre. chacun respectant l'autre. Autrement dit, des équipes qui se rencontrent, qui échangent, qui dialoguent, qui se respectent. D'où une esquisse architecturale qui intègre les souhaits des deux équipes. À partir du moment où le projet formalisé est véritablement clair, structuré, le concepteur, sur sa planche à tracer, est capable de répondre aux attentes des uns et des autres. Dans cette affaire, je dirais un médiateur important, l'ingénieur de l'établissement, qui lui-même possède la connaissance technique, connaît aussi, s'est imprégné de toute la culture des équipes pluriprofessionnelles, mais aussi des rôles bien identifiés, pas de confusion des rôles, chacun restant dans son rôle, dans ses missions et dans son espace. Par exemple, l'administration pénitentiaire n'intervient pas dans les locaux de soins, sauf à la demande des équipes de soins, n'intervient dans les locaux de soins que, éventuellement, pour réaliser des opérations de fouilles de locaux, mais dans le cadre d'une procédure clairement établie. Le recentrage des soignants sur leur métier. La libre circulation des patients dans les unités de soins, ça c'est un élément important qui n'existait pas avant la création des UHSA, qui n'existe même pas pour les personnes qui se trouvent en centre de détention. Des stages de formation aussi de nos équipes soignantes dans les services de détention, des stages aussi des professionnels de l'administration pénitentiaire dans les services de soins. Alors, la question, l'innovation thérapeutique. Alors, Isabelle Mouric répondra plus précisément à cette question. Pour l'instant, peut-être pas encore, mais en tout état de cause, une amélioration significative de la qualité de la prise en charge des patients, de façon à pouvoir offrir les mêmes conditions que les patients qui se trouvent hospitalisés dans des conditions de droit commun. Donc, au final, un outil pertinent, mais qui n'est qu'un outil. Ça dépend tout de l'utilisation que l'on fait de l'outil. Une synergie entre projet médical, projet de soins, projet architectural, et donc avec une architecture capable de répondre aux attentes et donc de contribuer au bien-être et à la prise en charge des patients. Une conception aussi faisant oublier toute notion de la prison, en offrant un cadre contenant et structurant pour les patients. Voilà, quelques propos introductifs. Donc, je laisse la parole maintenant.
Je vais tenter de faire le lien, effectivement. On a évoqué, effectivement, l'aspect des contraintes et l'expérience, effectivement, qui est la nôtre à travers ce projet, qui moi, m'a paru, effectivement, fondamentale, que je pourrais qualifier un peu de concordance des temps. En gros, un projet médical avec une vision claire. Ça me paraît effectivement déterminant parce que souvent, quand on est dans ce type de projet, on peut voir des évolutions, des allées et des retours qui font que pour avoir une organisation qui soit stabilisée, c'est pas toujours gagné, quoi. Et là, sur ce projet UHSA, une vision médicale très claire, le sens effectivement de l'organisation nous a permis effectivement de pouvoir faire en sorte que les contraintes sécuritaires aient été vécues par l'ensemble des professionnels comme une opportunité et non pas comme une contrainte. C'est-à-dire qu'on a pu effectivement, utiliser ces contraintes-là comme une dynamique d'organisation pour mettre de la rigueur dans notre modèle et puis pouvoir donner un message clair à l'ensemble des paramédicaux qui ont été associés au travail d'élaboration. Et ça, je crois que ça, c'est vraiment un point vraiment très, très important, très positif que nous avons pu observer. Le deuxième point, peut-être, mais là, le docteur Mouric pourra l'évoquer plus précisément, le fait d'avoir des professionnels qui avaient une expérience du milieu pénitentiaire aussi. Parce que tant qu'on n'a pas travaillé dans le milieu pénitentiaire, on ne s'imagine pas non plus, au-delà des contraintes matérielles, architecturales, les contraintes de fonctionnement, l'aspect sécuritaire qu'il faut effectivement prendre en compte. Et là, on a pu, pour les professionnels qui ont participé à ces travaux-là, être sensibilisés très très tôt à cette contrainte-là et pouvoir les intégrer, là aussi, dans une dynamique d'organisation.